Bien, merci beaucoup, chers collègues, mesdames, messieurs. C'est un grand plaisir d'avoir été appelé par les collègues à venir vous parler de ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire mon métier de biologiste, mais c'est aussi notre métier d'enseignant de répondre présent quand il s'agit d'université. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ce que l'on m'a suggéré, c'est de vous parler de ma façon de ressentir, de vivre la biodiversité. Alors, ce qui caractérise cette biodiversité par rapport à ce que vous avez déjà entendu ici, dans les conférences précédentes, et ce que vous allez entendre dans les suivantes, c'est que ce n'est pas une discipline scientifique à proprement parler. C'est un carrefour de rencontres entre les disciplines scientifiques, qu'elles soient des sciences biologiques, des sciences physico-chimiques, pour ce qui est de l'environnement, des sciences humaines et sociales. C'est un carrefour de rencontres entre l'homme et le vivant. Ce carrefour, vous êtes bien tous convaincus qu'il existe et je n'ai pas besoin de vous la définir, cette biodiversité. Si je regardais sur ce transparent, la biodiversité pour chacun de nous, c'est la variété du monde vivant autour de nous. Les arbres, ceux qui ont subi la tempête, mais aussi ceux qui y ont résisté. C'est aussi les poissons qui vont se trouver prisonniers dans des mares quand les crues s'étant retirées, ils ne pourront pas retourner dans les lieux où ils sont nés et où ils ont l'habitude de se nourrir. C'est aussi les microbes, les virus. C'est aussi les prions. C'est la biodiversité. Et vous voyez bien que cette biodiversité, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, cette biodiversité a des fonctions. D'abord, pour chacun de nous, c'est une ressource dans la vie quotidienne. Nous avons besoin de manger, de nous vêtir, de nous chauffer. C'est une ressource renouvelable, susceptible cependant d'épuisement. Et c'est ça qui fait le débat politique et la sensibilité de la société aujourd'hui. Mais c'est aussi une ressource que l'homme a appris à renouveler et à enrichir. On va le voir dans plusieurs exemples. Bien entendu, c'est un champ d'activité et de profit pour la société. C'est un champ où la recherche trouve des objets à la hauteur de sa mission, où la conservation, issue d'une volonté, d'un projet de société, trouve des moyens et des champs d'action, où la gestion va tâcher de faire l'usage que l'homme souhaite de ses ressources biologiques, et il va les administrer. Comme nous le verrons, tout le monde n'a pas la même opinion par rapport à cette biodiversité. C'est enfin une image de nous-mêmes et des autres êtres vivants dans une vision éthique avec des droits et une éducation. Et je ne vais pas vous faire un long discours pour ça. Il se trouve, mais je pense que Yves Michaud avait une idée là-dessus. Il se trouve qu'il m'a demandé de vous parler de biodiversité le 6 janvier. Vous savez tous que le 6 janvier, c'est l'épiphanie. C'est l'épiphanie, c'est-à-dire c'est le jour où les rois mages ont apporté les symboles spirituels de la biodiversité à celui qu'ils venaient visiter. C'était la myrrhe, c'était l'encens, c'était le benjoin. Trois produits d'origine végétale, produits par des espèces diverses, dans des localités diverses du monde. La myrrhe venait d'Arabie, l'encens venait d'Éthiopie, puis il était passé en Arabie et il arrivait en Palestine, et enfin le benjoin venait à travers un long périple que les hommes lui avaient fait faire de l'Asie du Sud-Est, du sud de l'Inde et de la région de Thaïlande. Donc, ce n'est pas la peine que je m'attarde sur ce transparent. Vous savez ce que c'est que la biodiversité et vous savez qu'elle a une valeur autre que de la simple science biologique, de la simple science physico-chimique ou de la simple science sociale. Alors, j'ai parlé, mais je vais vous montrer deux images de cette biodiversité pour vous convaincre que je crois ce que je viens de vous dire. Dans la première image,
pouvez me donner?
Alors, dans la première image, vous voyez la biodiversité telle que nous la vivons, nous, Parisiens, femmes et hommes de pays riches et développés. Nous la vivons comme le symbole de la nature, dans la beauté de son paysage, dans la diversité de son paysage. C'est un site où les aigles vont nicher. C'est un site où il existe tout autour de ces rochers des plantes, des animaux, des micro-organismes vraisemblablement tout à fait originaux. Pour nous, lorsque nous nous sentons sentimentalement, viscéralement attachés à la biodiversité, nous commençons par penser à ça. Par contre, une maîtresse de maison, une mère de famille, en pays tropical, plutôt aride, plutôt pauvre, quand elle pense à la biodiversité, elle pense à ça, aux choses visiblement beaucoup moins riches, beaucoup moins abondantes, peut-être tout aussi diverses pour le biologiste, avec lesquelles elle va nourrir sa famille, et elle pense à la pauvreté de ce qu'elle a sur le marché. Et la biodiversité, elle est là. Vous voyez, différents types d'espèces, quelques petits piments. Ils sont jaunes, ils sont verts, ils sont rouges. Il y a plusieurs variétés. Des pastèques, différents types d'arachides. La voilà la biodiversité. C'est celle aussi avec laquelle nous vivons et une bonne partie de l'humanité s'intéresse à la biodiversité pour ça, parce qu'elle a besoin de vivre. Alors, après vous avoir dit ça, je vais vous raconter ce que je vois d'un point de vue plus scientifique, ce que je trouve quand je lis les livres des gens compétents. Et ces livres, ils me donnent, et je pense qu'ils vous donnent aussi le vertige, vertige du temps et vertige des nombres. Si nous parlons en espèces, alors, dans les recensements des personnes compétentes, des systématiciens des années 91, on trouve que dans les livres sont répertoriées 1 600 000 espèces, mais que le total estimé est probablement 10 ou 100 fois plus. Par conséquent, j'ai un vertige devant l'inconnu. Et là-dessus, on m'explique que sans me définir très clairement ce qu'est la domestication, à peine quelques milliers sont utilisés de façon directe ou indirecte par l'homme. Le reste, est-ce une richesse? Est-ce un fardeau? Faut-il aller en chercher d'autres, puisque nous en utilisons déjà si peu dans ce que nous connaissons? J'ai le vertige. Mais le vertige s'accroît si je parle en termes de renouvellement. Les paléontologues, les biologistes de l'évolution, nous enseignent que la demi-vie moyenne d'une espèce à la surface de la planète est de l'ordre du 1 000 000 d'années, à comparer aux 3 et quelques milliards d'années que la vie a déjà vécu sur la Terre, ce qui veut dire qu'il en est passé des espèces sur les sites sur lesquels nous vivons. Combien sont nés, combien ont disparu? Moi, le nombre sont tellement grands, je ne sais pas faire le calcul. Et si je m'intéresse maintenant à ces piments que la maîtresse de maison cherchait, à ces individus végétaux, alors, dans les livres, vous trouverez que la vie moyenne d'un individu, c'est en général moins d'une année. Certes, vous avez des micro-organismes qui vivent quelques dizaines de minutes, quelques heures. Vous avez des végétaux qui sont annuels, d'autres qui sont bisannuels, d'autres qui sont pérennes. Nous sommes parmi les espèces qui vivent relativement longuement, les arbres encore plus, et vous avez bien entendu senti les effets de la tempête dans cette vision, cette perception. Enfin, les mêmes livres nous disent que tous ces individus sont génétiquement différents. Chacun de nous, certes, se reconnaît comme partie prenante d'une espèce, mais sait aussi qu'il est différent de son voisin, différent de son père, de sa mère, sait que ses enfants lui ressemblent sans être identiques à lui. C'est pour ça que j'ai le vertige des nombres. C'est aussi pour ça que j'ai le vertige du temps. Alors, c'est clair, cette biodiversité, c'est un système qui bouge tout le temps. C'est ce que j'ai appelé ici un système en devenir. C'est peut-être pas la meilleure expression, mais je suis sûr que chacun de vous trouvera la sienne. Donc, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que nous vivons peut-être une période de tension, d'inquiétude à propos de cette biodiversité aujourd'hui dans nos sociétés? Parce que le temps de cette biodiversité, je devrais dire les temps, tous ceux que j'ai passés en revue jusqu'à à l'instant, ces temps sont clairement différents du rythme et du pas de temps de la vie économique actuelle. Nous vivons à un rythme qui est beaucoup, beaucoup plus rapide que celui-ci, que celui de la biodiversité. Nous accélérons les choses. Est-ce que nous lui laissons le temps de se renouveler, d'être toujours à la disposition de l'homme? Ce faisant, j'ai pris une position idéologique. J'ai mis l'homme au milieu, j'ai mis l'homme à côté, j'ai mis l'homme au-dessus, ou peut-être au-dessous, ça dépend de ce que vous pensez. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Quelle est votre opinion? Nous verrons ça. Mais nous allons aussi avoir un vertige dans l'espace. Vertige dans l'espace parce que cette biodiversité n'est pas distribuée de façon homogène. Et vous le savez bien, la flore de montagne n'est pas la flore des plaines. La flore des parcs à l'intérieur des villes, du petit square devant le CNAM, n'est pas la flore que vous trouverez, par exemple, sur les bords de la Méditerranée, maintenant que l'homme a mis du béton et des géraniums partout. Ce sont pourtant tout ça des milieux vivants bien structurés, bien organisés. Et les biologistes savent les décrire, savent analyser, décrire, suivre éventuellement leur fonctionnement. Alors quand ils font ça, ils nous disent quelque chose d'important. Ils nous disent que cette biodiversité, ces sites de biodiversité, ce sont des mosaïques plastiques qui se déforment. Nous l'avons vu avec la tempête. Nous avons pensé que c'était terrible, cette tempête, et ça l'est pour les hommes. Ça l'est aussi peut-être pour les plantes, elles ne nous l'ont pas dit. Mais nous savons que dans un autre territoire national, qui est l'île de la Réunion, ces tempêtes sont absolument indispensables au maintien d'une biodiversité dynamique sur l'île. Le cyclone, quand il passe, il arrache les arbres, comme la tempête l'a fait ici dans la région ou en Charente. Il arrache les arbres. Après ces arbres, des espèces végétales pionnières s'installent et elles vivent. Elles laissent des graines, elles laissent des descendants très nombreux. Elles sont remplacées par d'autres. Elles font le passage pour d'autres qui s'installent à leur tour. Les précédentes, on pourrait dire qu'elles disparaissent. Le botaniste averti est amené à les chercher avec beaucoup de soin s'il veut retrouver des graines ou des plantules. Y a-t-il crise de cette biodiversité-là? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, le système de l'île de la Réunion vit avec des successions, des cascades de diversité biologique qui font partie de leur système, qui se sont installées et qui vivent comme ça. Où vont-elles? Nous verrons. Je peux le raconter maintenant, non pas avec les événements naturels, mais je peux le raconter avec les faits de l'homme. Et ça, c'est une illustration que j'ai appelée l'illustration numéro 1. C'est une illustration que je prends de façon très, très résumée l'histoire qu'a vécue la biodiversité dans la région des Vosges du Nord, dans le parc national des Vosges du Nord. Alors, vous êtes tous très forts en géographie, moi je le suis moins, mais quand même. J'y tiens parce que cette carte, je vais en reparler dans un instant. Dans cette carte, vous voyez tout à fait en haut, dans le pays de Bitche, au sud du Palatinat, un parc national, une réserve de la biosphère, une zone protégée par notre État. Dans ce parc, quand les Romains sont arrivés et qu'ils allaient sur Cologne et Aix-la-Chapelle pour s'installer, ils ont, dans cette région, ils ont soigneusement contourné. C'était des forêts hostiles. En l'an 800, quand Charlemagne en avait assez de faire l'école qui est devenue l'université, en l'an 800, Charlemagne allait avec ses féodaux y chasser. Il y avait donc une diversité biologique qui a été racontée dans les livres. Au XIVe siècle, les hommes avaient faim, les hommes avaient froid, ils ont défriché ces forêts et ils ont installé de nouveaux milieux. Des milieux humides, des milieux de culture, des milieux de pâturage et bien sûr la forêt. L'écologiste dit, je repère dans cette Vosges du Nord cinq écosystèmes. Ce dont je vous parlais est tout à fait en limite, les chaumes des Vosges. les territoires sans végétation forestière. Et du XIVe siècle, début de ce siècle, une agriculture, l'homme s'est installé, a vécu. Alors du XIVe au début du XIXe, je ne sais pas si vous appelez ça l'équilibre, 500 ans, pour les uns c'est long, pour d'autres c'est court, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'en vivant tous ensemble dans cette région, on constate qu'au milieu de ce siècle, au moment où l'État installe le parc national, on constate qu'il existe une très grande diversité d'espèces. Les espèces qui vivent dans les territoires marécageux au fond des vallées, les espèces qui vivent dans les parties cultivées agricoles, les espèces qui vivent dans les pâturages, etc., etc., sont toutes différentes. Et il y a des oiseaux, et tout le monde échange les ressources d'un endroit, va en chercher ailleurs, en ramène, ainsi de suite. Politique de conservation, parfaitement, sentimentalement justifiée en disant « ce milieu si riche est destiné à disparaître si nous n'y prenons pas garde, les pluies acides ». Les routes, la pollution, une mauvaise exploitation, la surexploitation. Faisons de ça une réserve. Interdisons à l'homme d'entrer. Oui, ça a été fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans plus tard, les collègues qui géraient ce parc, qui sont des hommes et des femmes remarquables, se sont aperçus que quand ils laissaient la nature toute seule, dans cet endroit qui leur tenait tant à cœur, nous tient tant à cœur, la diversité était en train de se réduire, un système biologique du type de celui qu'avait vécu, allez, Charlemagne, je dis sûrement une bêtise, du type, c'est-à-dire un système beaucoup plus simple, beaucoup plus hostile, beaucoup moins riche, beaucoup moins divers, était en train d'envahir les terres cultivées, les prairies et les forêts. Ils ont donc décidé, et mon avis personnel, et qu'ils ont bien fait de le décider, ils ont donc décidé que conserver la biodiversité dans le parc national des Vosges du Nord, ça voulait dire y conserver l'activité de l'homme en optimisant le rapport entre lui-même, sa vision du monde et les êtres vivants qui étaient là. Je trouve cet exemple très illustratif. Alors c'est dans ce cadre-là que je vais vous raconter la suite de mon histoire. Mais la suite de mon histoire, elle a mis l'homme en position, donc je vous parle de la céréaliculture dans le bassin parisien. Une ferme sur les bords de l'Yonne. Nous sommes à la veille de la guerre de Cent Ans, 1430. À l'époque, faisant partie du district du diocèse de Paris, cette ferme avait des registres bien tenus. Dans ces registres, on apprend que les paysans de l'époque faisaient toute mesure reconvertie 5 quintaux de blé à l'hectare. 5. Aujourd'hui, les mêmes terres font presque 100 quintaux de blé à l'hectare. Bien entendu, ce n'est pas le même blé, bien entendu, ce n'est pas les mêmes paysans. Mais je pense qu'entre la veille de la guerre de Cent Ans, le passage du petit âge glaciaire au fin du XVIe, début du XVIIe dans cette région, et le retour à la période actuelle, je pense que vous serez d'accord avec moi pour imaginer que les paysans de cette époque, leurs descendants, ont quand même bien travaillé. Et ils vivent probablement, vous, eux et nous, moi, mieux que si nous avions vécu à cette époque-là. Donc, la biodiversité, c'est quoi dans ce système? Alors, c'est la diversité génétique des plantes, c'est la diversité génétique des animaux, des micro-organismes. Je peux raconter beaucoup d'histoires comme ça, c'est clair. Je suis convaincu, et je voudrais que vous le soyez, que ce n'est pas un système statique. Nous ne pourrons pas l'arrêter, cette biodiversité. Mais nous pourrons peser sur son avenir. Alors, peser sur l'avenir, ça veut dire que nous sommes dans un problème de société. Biodiversité, oui. Acceptons ce que je viens de raconter, si vous voulez bien. Mais les conflits arrivent. Tout le monde n'a pas la même opinion. Tout le monde n'a pas le même intérêt. Certains veulent survivre. La mère de famille qui allait au marché de tout à l'heure n'a pas le même objectif vis-à-vis de la biodiversité et des ressources qu'elle peut ramener à la maison pour ses enfants que ceux qui vivent avec des objectifs de société, eux aussi, dans des sociétés riches, structurées, dans des entreprises publiques ou privées. dont l'objectif est le profit. Mais tous ceux-là mangent, comme vous et moi, tous les jours à leur faim. Et leur objectif, c'est de payer. Mon objectif, votre objectif, c'est de payer la meilleure nourriture possible au plus bas prix, n'est-ce pas? Soyez honnêtes, soyons honnêtes, reconnaissons-le. Nous ferons des efforts pour des raisons qui nous concernent sentimentalement, spirituellement, chacun de nous. Voilà pourquoi. Et là-dessus, il faudra quand même, quelles que soient nos sociétés, assurer sécurité alimentaire, santé à chacun de nous. Et il est bien clair que tout le monde n'est pas égal devant ce système. Donc, développement économique, profit, développement durable. Vous voyez les objectifs, vous voyez les conflits venir. Comment choisir dans cette biodiversité? Comment administrer? Alors j'ai mis avec modestie, avec un point d'exclamation, parce que j'ai des petits-enfants et que je pense à eux. Alors je me dis, soyons prudents. J'espère qu'ils vivront la même vie intéressante que j'ai vécue quand moi j'ai eu la chance, en sortant de l'école, que les employeurs m'offrent du travail. Je nous en sommes pas encore là. Je souhaite pour mes petits-enfants qu'ils connaissent ce que j'ai vécu. Donc, complexité. Complexité en matière politique. Qui gère? Qui conserve? Pourquoi? Pour qui? Avec quelle autorité? Quel contrôle? Ça, c'est la grandeur et la servitude des décideurs. Mais c'est aussi celle de ceux qui les élisent. Bon, un système en devenir. Du point de vue de la connaissance, nous avons tous besoin de savoir de quoi nous parlons. Dans ce pays, depuis plusieurs années, les scientifiques, quelle que soit leur origine, qu'ils appartiennent, qu'ils soient des employés des services de recherche privés, publics, du ministère de la Recherche, de celui de l'Environnement, de celui de l'Agriculture, certes ont des débats entre eux. On ne fait pas la même chose dans toutes les institutions. Mais un mouvement commun existe dans ce pays, une sorte de volonté latente, diffuse, qui avait pris corps sous le nom de Programme national dynamique de la biodiversité. C'était un programme de recherche. Il a vécu depuis la conférence de Rio, 1992, jusqu'à l'an dernier. Et depuis le 1er janvier, en principe, si toutes les décisions budgétaires arrivent, il va être remplacé par un bureau d'orientation et d'action coordonnée en biodiversité. C'est une décision de l'État qui installe cette structure, un groupement scientifique, sur la base d'une plateforme d'entente intellectuelle et de gestion de l'ensemble des organismes de recherche de ce pays. Sur quatre axes, nous avons besoin d'en savoir plus concernant l'origine, la distribution et la dynamique de cette biodiversité. Nous avons besoin d'en savoir plus lorsque, pour des raisons, qu'elles aient été correctes ou pas correctes, ce n'est pas la question ici. Pour des raisons qui font qu'aujourd'hui un site est dégradé, une espèce est en danger, une ressource vient à nous manquer, nous devrions pouvoir la protéger, la restaurer. Comment faire? Nous avons besoin de connaissances, d'ingénierie pour le faire. Le quatrième axe, c'est comment faire ça de façon durable, aussi bien pour nous, en France, qu'à l'étranger. Et bien entendu, il faudra vivre. Nous n'arrêterons pas d'un coup de baguette magique la croissance démographique. Nous ne reviendrons pas aux populations de la veille de la guerre de 100 ans. Il va donc falloir vivre une vie économique avec des valeurs, valeurs propres des objets vivants et valeurs de la mise en valeur, coûte, intérêt de la mise en valeur. Jusqu'à maintenant, sur la base de la recherche, ceci a été fait par des réseaux nationaux. Ils sont nombreux et il y a dans ces réseaux beaucoup de femmes et d'hommes dévoués et actifs, des scientifiques et des gestionnaires. Je vous en ai mis quelques-uns ici. La liste est là, vous pouvez la lire aussi bien que moi. Un programme fondamental de dynamique, un réseau national de systématique, un service du patrimoine naturel au ministère de l'Environnement, un bureau des ressources génétiques pour ceux qui font de la valorisation, un programme pour recréer la nature au ministère de l'Environnement, ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il n'y a pas que la France qui fait ce travail-là. Il y a de nombreuses actions internationales. La Bible de ça a été écrite, c'est une Bible statique. C'est le grand défaut de cette Bible. Elle a été écrite par un travail collectif auquel les Français ont participé, qui a été financé par la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui s'appelle Global Biodiversity Assessment. Et vous voyez l'épaisseur des choses. Et je suis bien sûr, là-dedans, il n'y a qu'une toute petite fraction du savoir des femmes et des hommes sur la Terre, et il y a probablement une toute petite fraction de ce qui mériterait d'être su. Donc celui-ci, c'est une Bible, mais c'est une Bible qui sera comme toutes les Bibles, à lire, à méditer, et ensuite à vivre. Alors, je reviens en arrière avant de replonger dans la biologie. Avant de replonger dans la biologie et dans le droit, dans le juridisme, puisque je vous ai parlé d'un lieu de rencontre, il faut maintenant parler sérieusement, comme des scientifiques. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Quel est l'objet de la recherche en biodiversité ? Voici deux définitions. Celle de la Convention sur la diversité biologique. Oui, je suis désolé, j'ai laissé ça en anglais, mais ça existe aussi en français, vous l'aurez dans un instant. Alors vous voyez, c'est de la variation entre organismes dans des milieux différents. Ça concerne des espèces, des milieux. Bon, c'est une définition. C'est celle, j'y tiens à cette définition parce qu'on va en voir les conséquences très bientôt. C'est une définition qui oublie le fonctionnement intime des organismes. Par contre, l'Union internationale de conservation, pour la conservation de la nature, ainsi que le programme de la Banque mondiale, eux ont une définition plus simple, mais probablement plus claire, bien qu'ambitieuse, qui dit la totalité des gènes, des espèces et des écosystèmes dans une région. Là, nous avons fait et parcouru l'ensemble de l'échelle de l'organisation, des niveaux d'organisation du vivant, certes, mais nous avons dit que c'était dans une région. Et une région, nous allons l'arrêter où ? Je ne sais pas. Par conséquent, pour moi, cette biodiversité, c'est un concept important, c'est un objet de dévouement et d'intérêt, mais c'est un concept ambigu pour tout le monde. Et par conséquent, une bonne partie des conflits, c'est que chacun de nous a sa définition et nous ne nous comprenons pas toujours. Si c'est ça, s'il y a querelle entre les hommes, c'est que les projets de société ne sont pas clairs. Bon, on va faire du mieux qu'on va pouvoir avec ce que nous avons. Je vais vous passer donner quatre petits commentaires de biologistes. Les biologistes ont mis au travail sur ces questions de biodiversité, d'abord les systématiciens. J'en ai déjà parlé, ils vont avoir leur mot à dire. Mais je vais reprendre la dernière des définitions que je vous proposais. Alors, les généticiens et les évolutionnistes ont été mis à contribution. Qu'en pensez-vous, leur a-t-on demandé, de cette biodiversité ? Oh, ils disent, la biodiversité, c'est la diversité des gènes et des individus et des espèces. Nous savons étudier ça, éventuellement comprendre certains processus. Certains d'entre vous ont entendu M. Jacob, et ceux qui ne l'ont pas entendu ont pu lire dans le Monde son texte. Donc, vous savez, c'est les mutations, les échanges génétiques, et la dynamique des génomes, qui est une façon peut-être grossière et pas très correcte de parler de tous ces remaniements qui se sont produits au niveau de l'ADN et qui ont autorisé l'évolution dont parlait M. Jacob. Mais ça s'est passé dans un contexte de système biologique, de système écologique. Certains de ces objets qui apparaissent ou qui disparaissent ne font ni chaud ni froid à leurs voisins. D'autres se trouvent à voir une propriété qui les favorise, c'est les questions de neutralité et de sélection. C'est la question revisitée du darwinisme aujourd'hui. Et tout ça fonctionne avec des nombres, avec des fonctions. Ce n'est pas simplement de la spéculation intellectuelle, nous l'avons déjà vu. Tout ça fonctionne dans le jargon des biologistes en métapopulation. C'est une autre façon pour parler que le système est organisé en mosaïque, et que certains individus passent de l'une à l'autre, s'échangent, certaines s'éteignent, le site est recolonisé par des individus de la même espèce, de la même famille génétique, parfois différemment. Certains reviennent chez leurs grands-parents, pour ainsi dire. Et au passage, ils ont un peu changé, amenant de la richesse, de la nouveauté dans les sites occupés par leurs anciens grands-parents. Donc tout ça va de façon divergente, le nombre des espèces, disent les évolutionnistes, est allé en augmentant et beaucoup d'entre elles ont disparu et nous n'en recueillons aujourd'hui que ce qui reste en l'an 2000. Donc là-dessus, quand vous dites aux biologistes, généticiens, évolutionnistes, mais qu'est-ce que moi je retiens? Alors il vous dit, comme un bon scientifique, il y a là-dedans, dans ces dynamiques, des processus qui sont bien déterminés, dont je peux analyser les mécanismes et prédire de façon, je vais dire, je vais me lancer, certaines des résultats. Et il y a des processus qui, eux, sont au contraire probabilistes, dont je peux dire comment ils fonctionnent, mais je ne peux pas dire avec quelle probabilité il donnera ce résultat que vous attendez. Ça, c'est difficile. Ça, c'est de la science. Ce n'est pas du tout ce qu'elle entend de dire quelqu'un dont les arbres sont tombés et qui pose la question, si je dois replanter, je veux des arbres qui résistent à toute tempête jusqu'à la fin de l'éternité. Je ne suis pas sûr que les biologistes sauront trouver les bonnes semences pour ça. Ceci étant, le biologiste parle aussi à d'autres niveaux. Le biologiste ne s'intéresse pas qu'aux gènes et à l'évolution. Il s'intéresse au fonctionnement des organismes, des individus, à ceux qui ont froid, à ceux qui ont mal, à ceux qui ont faim, à la biologie, à la façon dont les animaux, les plantes, les micro-organismes, les hommes et les femmes se reproduisent, aux problèmes de démographie. Et il y a là de la diversité, de la biodiversité. Les individus, les espèces n'utilisent pas les mêmes stratégies de reproduction selon le milieu, l'idée qu'ils s'en font et la façon dont ils le perçoivent. Ça a des conséquences. Il y a des espèces qui développent des organisations sociales pour raffiner leur réponse à cet objectif de reproduction et cet objectif démographique. Et il y en a qui utilisent les voisins, qui vivent en communauté. Ce sont des consortiums. Et vous, qui comme moi peut-être aimez le fromage, vous savez bien que les bons fromages ne sont pas le produit d'une seule espèce de ferment lactique, mais d'un consortium astucieux qui s'est partagé les tâches, s'est entraidé pour faire apparaître des saveurs, des textures, des sapidités, qui sont celles que nous, nous sélectionnons. C'est une vie de consortium. Et ces consortiums, dans les appellations d'origine contrôlée, ils sont venus, ils se sont installés, ils vivent. Ces espèces microbiennes échangent entre elles. Échangent de quelle manière? Elles échangent toutes sortes de formes. Des signaux, certes, des gènes, quelquefois. Elles échangent aussi, et elles partagent, les substrats pour se nourrir. Alors, en passant de cette façon, on est progressivement arrivé à ces systèmes, à ces milieux, à ces régions. Et ça, c'est le domaine de l'écologie, l'écologie scientifique. Alors, je vais repartir du consortium cette fois. Le consortium dans l'écologie, c'est l'interaction entre espèces. C'est une interaction durable. Et demain soir, Claude Combes, ici, va vous parler comment, de la naissance de ces interactions, de la façon dont elles fonctionnent, de leur rôle dans la reproduction éventuellement sexuée des différents partenaires, bien qu'ils ne soient pas de la même espèce. Vous verrez. Je vous recommande de venir demain soir. Claude Combes est un magnifique conférencier et il a des choses extrêmement importantes à vous raconter et qui vous toucheront sentimentalement. Il vous parlera, comme moi, des femmes et des hommes. Il vous parlera aussi des mollusques. Il vous parlera de beaucoup de choses dans l'agriculture de notre pays comme dans l'agriculture tropicale. Bon, allez, je ne suis pas là pour faire sa publicité. Ces habitats sont fragmentés. On a parlé de mosaïque. Pour un écologiste, c'est extrêmement intéressant. C'est là qu'il tire ses références, qu'il peut dresser ses comparaisons, qu'il peut expérimenter au sens d'un scientifique, c'est-à-dire en faisant des prédictions sur la base d'hypothèses, en mettant en œuvre une démarche expérimentale, en analysant les résultats. Il découvre que les variations écologiques, variation a perdu son S, vous avez vu sur mon transparent, que les variations écologiques sur un même thème sont aussi extrêmement diverses, enrichissant notre biodiversité. Mais elles sont vulnérables. Et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'Erika a fait sur les côtes de la Vendée. Cependant, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que si nous prenons garde aux constantes de temps, au pas des choses et des dynamiques, il y a différents types de scénarios possibles pour voir évoluer, se transformer ces écosystèmes. Ça, c'est la science écologique. Ils vont venir, les collègues, vous expliquer ça. Et à partir de ce moment-là, quand ils vous auront expliqué les mécanismes, les processus qui font ces variations, si vous repensez à ce que je vous raconte aujourd'hui, à cette question de crise et d'inquiétude vis-à-vis de la biodiversité, vous vous demanderez comme moi, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'être rare? Est-ce que c'est une propriété intrinsèque des objets vivants? Est-ce que c'est une propriété intrinsèque plus de certaines espèces que d'autres? Pourquoi le merisier n'aime-t-il pas vivre en plantation homogène, serrée, dans les expérimentations des forestiers, alors que les pins adorent ça? Pourquoi pourtant le merisier est-il un arbre social? C'est-à-dire, il distribue ses graines, et quand vous regardez dans une forêt la dispersion des merisiers, un par-ci, un par-là, ils sont rares. Ils ont des relations de parenté, pas n'importe lesquelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être rare? Alors, bien sûr, moi j'ai aussi, en tant que contribuable, une notion de la rareté. La rareté, c'est ce que je n'arrive pas à trouver, parce qu'il n'y a plus que très peu, et que nous sommes nombreux à en vouloir, et que c'est devenu très cher. Donc nous nous posons une question. Nos collègues d'écologie se posent une question. La biodiversité a-t-elle une fonction? Bien sûr que oui. Comment l'analyse-t-on? A-t-elle des fonctions? Où seront les limites? Quel sera le spectre de ces fonctions? Là, nous sommes dans l'interrogation scientifique. Et ma prédiction, c'est que nous n'avons pas fini d'être surpris. Mais pour faire ça, il faut connaître les animaux, les bactéries, les plantes. Autrement dit, il faut être un bon systématicien, un bon botaniste. Il est bien évident que depuis l'inné, cette systématique a construit la base de notre savoir vivant, de notre capacité à distinguer les objets les uns des autres. Et cette systématique, elle a tiré sa gloire, mais elle a aussi vécu, et elle vit encore, la difficulté du vertige du temps et du vertige des nombres, ce que je vous racontais tout à l'heure. Si tout le monde, chacun de nous, biologistes, devait s'atteler à la systématique, nous n'y suffirions pas. Et pourtant, il y a d'autres choses à faire aussi en même temps. Il y a d'autres intérêts. Bon, nous avons besoin de systématique. Cruellement besoin. Et nous n'aurons jamais fini cette systématique. Et en plus, ça change tout le temps. Donc, par rapport à nos objectifs, nous devons tous dire à nos amis systématiciens, vous nous êtes indispensables. Vous avez souffert, mais nous vous aimons. Nous vous aimons parce que vous faites un travail intéressant. Ça, c'est la première des choses. Nous vous aimons parce que, deuxièmement, vous faites, même quand vous dites que ce n'est pas vrai, et même quand d'autres vous disent que ce n'est pas vrai, vous faites un travail utile. C'est inventorié, nommé, dans tous ces endroits nouveaux que nous découvrons, dans tous ces remaniements qui vont se faire. Il nous faudra connaître les êtres vivants. Et peut-être que les enjeux de la systématique nouvelle, ils sont non plus dans la connaissance des phylums, des genres, des espèces, des sous-espèces, mais ils sont peut-être dans les patrons, dans les collectivités, dans les fonctions. Ça, c'est un immense espace de liberté, de progrès pour les systématiciens. Mais au passage, ils vont trouver des difficultés, parce que les généticiens ont raconté que les échanges génétiques, les échanges d'ADN, ça existe. Rarement. Heureusement, rarement. Mais ça existe. Alors, nos systématiciens, nous allons leur demander quel concept d'espèce utilisez-vous? Et lorsque vous rencontrerez un virus qui gentiment passe de la pomme de terre au tabac, direz-vous que ce virus fait partie de l'espèce pomme de terre ou direz-vous qu'il fait partie de l'espèce tabac? Et c'est pourtant le même ADN, nucléotide par nucléotide. Moi, je ne sais pas répondre, mais je sais qu'il y a un problème. Un problème pour les systématiciens et pour nous tous, et pour vous et pour moi. Parce que j'ai parlé du tabac gentiment, mais vous pensez bien que j'aurais pu parler de l'espèce humaine. Et ça, c'est peut-être moins drôle. Donc, voilà les biologistes au travail. Alors, allons-nous attendre qu'ils aient fini tout ça, dont je viens de dire qu'ils n'auraient probablement jamais fini, pour faire quelque chose? Sûrement pas. Sûrement pas. ce système biologique, il va falloir l'utiliser. Nos concitoyens, quelle que soit leur situation, ne vont pas attendre. Et je suis d'accord avec eux. Il ne faut pas attendre. Il faut avoir le courage de regarder cette biodiversité comme une ressource. Bien sûr, il faut la connaître. Bien sûr, il y a un impact de l'homme. Bien sûr, ça dépend du choix de société. Alors, quelle démarche pouvons-nous nous proposer? Nous proposons d'évaluer cette biodiversité, de regarder comment elle évolue, et puis de traiter cette question-là dans nos décisions sociales et politiques en fonction de notre perception et de nos hiérarchies de valeurs. On va y revenir. Avant, cela passe par des inventaires, des observatoires, par des systèmes de conservation. Je vous ai montré les espaces naturels. Ça passe par une ingénierie de gestion et d'administration. Et il est bien clair que si nous devons être plus nombreux sur cette planète, non seulement il faut l'accompagner, cette préservation de la diversité biologique, mais aussi nous avons intérêt à l'enrichir, à ce qu'elle soit la plus riche possible, pour elle-même et peut-être aussi pour nous. Alors, si on est convaincu de ça, il va falloir se donner un cadre. Et le cadre, c'est les sciences sociales et juridiques de la biodiversité qui nous le construisent. La biodiversité, aujourd'hui, est en train de voir se construire un droit, c'est-à-dire un encadrement juridique. Mais par rapport à la démarche du biologiste, la démarche de nos collègues des sciences juridiques est une démarche que moi j'appelle inversée. Eux disent que c'est moi qui suis inversé. C'est une question du côté où on regarde. Ils partent dans leurs travaux de l'éthique, de la société, des individus, et définissent nos champs de liberté. Ils partent de nos rapports sociaux et ils établissent des lois et des règles que les citoyens votent à travers leurs élus. Ils partent des règlements qu'il faut bien amener au conflit en décidant, grâce aux lois et leurs règles, des interdits. Et quand la société se fixe des objectifs, il nous propose des procédures compatibles avec les lignes précédentes. Pour ça, nos collègues juristes, les juristes de la biodiversité, ont besoin de connaissances, ont besoin de connaître quelles sont les mesures de gestion possibles et ont besoin d'évaluation de ce qui se passe, de ce que les uns et les autres sont en train de faire. Ce n'est pas une question nouvelle. Je vais prendre cette question en trois points, en redescendant ma biodiversité des écosystèmes, des régions, jusqu'au gène. Le droit et les écosystèmes, c'est une vieille histoire. C'est ce que j'appelle l'histoire de l'approche environnementale. Le droit de propriété est très ancien. Et il a des conséquences sur la biodiversité. Droit de propriété foncière privée et publique, il est dans notre code. Droit code rural qui définit les usages. Droit de la mer, dont on sait qu'il est parfois bafoué. Ça, ce sont les droits généraux. Mais à l'intérieur de ce corps juridique ont été définis par nos prédécesseurs, par nos pairs, par nous-mêmes, quand nous votons, ont été définis des droits et servitudes particuliers, les droits de chasse, le régime des eaux, qui règle la vie de la diversité aquatique, mais aussi de l'agriculture, quelquefois. Nous avons défini des mesures publiques, des mesures collectives de protection et de conservation. Le littoral, nous avons un conservatoire, les parcs, j'en ai déjà parlé. Et même l'Europe s'en est mêlée avec la directive Habitat. Et je n'ai pas besoin de vous dire les conflits qu'il y a avec les chasseurs. Ça, c'est la façon dont le droit de la biodiversité, qui encadre l'usage, la connaissance et la recherche de la biodiversité, a progressé depuis très, très longtemps. Mais ce droit a été aussi construit par espèce. On n'est plus dans les régions, on est dans les espèces. Ça, donc quand on regarde le corps juridique et la façon dont il évolue aujourd'hui, on s'aperçoit que les sensibilités ont changé considérablement. Le loup, au temps de la guerre de Cent Ans, était une espèce bannie. Le loup, aujourd'hui, nous cherchons à le réintroduire. C'est bien une question de perception. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais. Je dis que c'est une question de perception. C'est une question de notre entité et de nous-mêmes. Et nous n'avons pas la même attitude vis-à-vis d'espèces que nous assimilons à nous-mêmes, le nounours de mes enfants et l'ours des Pyrénées, que l'on va voir et que l'on va défendre, tout en piétinant très gentiment les plantes protégées de la flore pyrénéenne. Visiblement, nous n'avons pas le même sentiment pour l'ours et pour certaines petites plantes discrètes. Nous n'avons pas non plus de sentiment très gentil pour protéger la gent de la tuberculose. C'est un être vivant, lui aussi. Nous aurions même tendance à le traiter autrement, celui-là, si nous le pouvions. Et si nous n'y réussissons pas, c'est peut-être aussi pour une question de société. Donc nous avons des espèces en voie de disparition, des espèces protégées, un droit, des classements, des mesures. Sont-elles bien appliquées? Vous avez chacun votre réponse. Et même dans les espèces domestiques, il y a un encadrement juridique de la diversité biologique. Finalement, dans le meilleur des mondes possibles, on imaginerait que juristes et biologistes auraient conçu un droit de la prospection sans ambition. Mais je crains bien que nous n'en soyons pas encore là. Et donc, si vous voulez bien, la prospection sans ambition, je vais mettre trois points d'exclamation à la suite. On va garder ça comme un rêve. Il reste à parler de l'approche génétique. Le droit et l'approche génétique. Ce n'est pas nouveau, l'approche génétique. Depuis le néolithique, les agriculteurs ont fait de l'approche génétique sans savoir qu'ils faisaient de la génétique, mais ils ont domestiqué des plantes. Et quand je vous ai dit que le blé de la veille de la guerre des Cent Ans faisait 5 quintaux à l'hectare, ce n'était pas génétiquement, c'est-à-dire c'était bien un ancêtre du blé, c'était bien du blé au sens de l'inné, au sens de l'espèce, mais c'était un type de blé qui n'avait probablement pas les capacités de production dans un milieu entretenu par l'homme, qu'ont les blés d'aujourd'hui. Donc, les généticiens, les sélectionneurs, les améliorateurs de plantes, les agriculteurs, les paysans, ont fait depuis de nombreuses années un travail. Et puis, ils gardaient leurs semences, plus ou moins habilement. Quelquefois, ils étaient obligés de les manger. C'était la disette. Le problème avait donc émergé, et en 1920, la France est parmi les premiers pays à développer un cadre juridique de certificat d'obtention végétale qui témoignait de la qualité de ce que un producteur de semences vendait à un voisin et qui, par le prix, reconnaissait le travail d'agriculture qu'il avait fait. Tout ce système s'est développé depuis 1920 jusqu'à nos jours et il existe aujourd'hui une législation parfaitement bien encadrée et une union pour la protection des obtentions végétales, qui a été reprise par la FAO, qui a une valeur générale. Tous les pays n'y ont pas d'ailleurs adhéré. En 1966, vous vous souvenez certainement, peut-être pas les tout plus jeunes de cette assemblée, mais 1966, c'est le moment où, dans une période de gloire et d'activité économique, l'État français, de l'époque décide une loi sur l'élevage et l'encadrement de l'insémination artificielle. Avec ce vocable-là, nous avons fait, notre pays a fait de la génétique animale et encadré sa production laitière et sa production de viande dans des systèmes réglementaires où les outils du contrôle démocratique devraient pouvoir s'exercer. Dans le monde microbien, les choses sont différentes parce que ces petits objets vivants-là, bien qu'ils représentent en masse la moitié du protoplasme vivant sur la Terre, sont si petits que nous ne les voyons pas avec nos yeux. Par conséquent, nous ne nous y sommes pas intéressés comme à un lapin ou comme à un chêne. Et depuis très, très, très longtemps, ils sont soumis au droit des brevets. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une vie juridique depuis la fin du siècle dernier jusqu'à récemment différente de celle des plantes et des animaux. C'était la vie juridique des microbes. Et aujourd'hui, nous vivons des conflits. Ceci marchait tant bien que mal à condition qu'on ne se marche pas sur les pieds. Aujourd'hui, tout le monde se marche sur les pieds. Aujourd'hui, nous venons de vivre, disons, une quinzaine d'années dans lesquelles, en regardant les collègues et les femmes et les hommes de ce pays vivre, j'ai le sentiment d'avoir vécu trois événements majeurs. D'abord, même si elle est incomplète, la maîtrise des gènes. De la matérialité de l'ADN, démontrée aux technologies classiques de génétique et de génie génétique, on est passé à la brevetabilité des séquences, des procédés, et à une évolution du concept de ressources génétiques, puisque si vous le pensez en termes de gènes, la ressource, vous pouvez vous interroger, est-ce la plante, est-ce l'ADN, ou est-ce le procédé? Ou est-ce la ressource, est-ce celui qui a acheté le procédé? C'est le débat aujourd'hui. À Seattle, on en a entendu parler. En parallèle, nous avons vécu, je crois que nous avons vécu, une évolution de notre perception du statut juridique du monde biologique. Avant 1992, dans tous les textes du type de ceux de l'Union pour la protection des obtentions végétales, mais aussi dans les plans d'action de la FAO ou dans d'autres, y compris dans les plans d'action de dérivés des programmes de la Banque mondiale, la diversité biologique était un patrimoine commun de l'humanité. L'UNESCO l'a écrit comme ça dans sa charte, dans ses chartes. 92 conférences de Rio, la biodiversité est en danger, certes, mais parmi les nombreux alinéas du traité, de la convention, qui a force de traité international, de la convention qui suivent, il y en a un qui est important. Et moi, je dois dire qu'en tant qu'individu, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il m'a fallu 5 ans pour le comprendre. Mais je ne suis pas juriste. Et puis peut-être que j'avais les yeux volontairement fermés par mes propres idées. Il y a un alinéa qui dit que les États voient leur souveraineté reconnue sur la diversité biologique qui est sur leur territoire. Ça veut dire que ce n'est plus un patrimoine commun de l'humanité. Alors, le mot souveraineté ne veut pas dire propriété. Il ouvre un champ de juridisme extraordinaire, un champ de conflit extraordinaire. Mais c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça que nous vivons exacerbé par la mondialisation qui a besoin de valeurs pour tout ça, d'unités de compte, que ce soit des dollars ou des euros. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on échange? Qui a les objets et qui a les droits? Qui échange les droits et selon quel régime? Donc, propriété intellectuelle, structures économiques multinationales, et puis les débats de Seattle. Vous les avez entendus, je ne vais pas vous les raconter. Alors j'arrive à la fin, il est peut-être déjà temps, j'en ai probablement trop dit, mais je vous ai dit ce que je pensais. Donc nous vivons une situation qui était bien cette crise, latente, diffuse à un certain moment, vécue douloureusement par certains, vécue avec intérêt par d'autres, il faut bien le dire. Nous vivons une nouvelle situation où il y a cependant des espaces de liberté nouveaux. D'abord pour les États. Les États ont vu leur souveraineté reconnue. Je ne dis pas si c'est bien ou mal, je le constate. C'est une situation où l'innovation développée par les individus, développée par les entreprises, développée par les structures, se voit un champ d'action beaucoup plus grand à des niveaux d'organisation de vivant sur des échelles de temps et sur des valeurs bien différentes de ce que nous connaissions quand moi j'étais à l'école agronomique. Et pour les citoyens, il y a un espace de liberté. Les citoyens ont à agir, mais il faudra qu'ils se mettent au clair sur leur projet de société en fonction de ce qu'ils pourront connaître, comprendre, accepter, refuser de ce qui leur est proposé. Et dans cette nouvelle situation, je vois trois tendances se dessiner. Je vois la première tendance qui est celle du biologiste qui s'intéresse à ces petites plantes ou à ces petits animaux et qui voit l'effacement de la conservation statique avec une priorité donnée à une conservation dynamique qui, elle, peut être relayée et entraînée par le concept de ressources et le concept d'innovation. Je ne sais pas si c'est bon ou mal. Notre société va dans ce sens-là. Ça sera à nous de faire ce qu'il faut éventuellement. Et dans ce nous de faire ce qu'il faut, nous aurons à nous poser la question, où est dans ce futur, où sont dans ce futur la justice et l'équité? Comment sont partagés les pouvoirs des individus, les pouvoirs des faibles et les pouvoirs des puissants? Qui prendra en charge les coûts? Qui gérera les patrimoines? Tout ça, il ne faut pas pleurer, même si on en a envie. Il ne faut pas pleurer parce que le fruit du travail des femmes et des hommes, qui, tant dans le domaine social, des sciences humaines, des sciences juridiques, que dans le domaine des sciences physico-chimiques ou des sciences biologiques, le fruit de leur travail, c'est un progrès de connaissances. On l'a vu se matérialiser récemment sur les gènes. Ne vous inquiétez pas, les gènes ne sont pas tout. Ce ne sont pas les gènes qui font les hommes ni les citoyens. Les gènes font partie des hommes et des citoyens. Ils ne sont pas les seuls à faire les hommes et les citoyens. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que nous aurons ce débat-là que les connaissances qui sont sorties sur les gènes, comme celles qui vont sortir de la compréhension du fonctionnement des organismes ou de l'écologie, ce sont ces connaissances-là dont nous aurons besoin pour construire nos ingénieries, pour construire nos projets et tout le temps les remettre en cause. En d'autres termes, vous direz, vous pouvez espérer une stabilité éternelle. Mon sentiment, après avoir étudié le sujet, c'est qu'elle est peu probable. Vous aurez tout le temps ce travail sur cet ouvrage sur votre métier, sur votre table, vous aurez tout le temps à y réfléchir. C'est pour ça que j'ai appelé ça un système à revenir. Et je ne vais pas vous laisser triste. Je vais vous illustrer ça avec deux images. Après, je vous dirai deux petits mots et j'en aurai fini. Est-ce qu'on peut avoir les deux dernières images? Donc la suivante. Ah, c'est moi qui le pousse. J'ai perdu la machine. Ah non, dans l'autre sens. Encore une. On va éteindre. On peut? On peut baisser la lumière? Ou c'est moi qui le fais? Non? Bon, si, non, ça sert à rien. Voyez la diversité à l'œuvre. Alors la biodiversité, vous pouvez envisager un avenir comme ça, du goudron, des cailloux, et peut-être au fond un petit village pour l'humanité. Et puis vous pouvez aussi l'imaginer comme dans la dernière image, dans un paysage tranquille, dans la Drôme, où vous avez de la montagne et des vallées, où vous avez la rencontre des mondes forestiers, des mondes agricoles, des mondes des fleurs méditerranéennes, des faunes méditerranéennes et des faunes et des fleurs des pays atlantiques, des pays du Nord. Moi, je préfère celui-là. En plus, il y a une ville qui est une ville active, qui est la ville de Nyon. On y fait de très bonnes cuisines à l'olive et on y produit du très bon vin. Donc voilà la biodiversité pour moi. Et j'espère que je vous ai convaincu qu'il ne faut ni pleurer, ni se réjouir, mais il y a beaucoup de travail à faire pour nous tous.